Villiers de l'île Adam, propos d'au-delà, l'élu des rêves. En novembre 1887, le jeune poète Alexis Dufresne habitait depuis peu de jours un garni de la rue de la Harpe au cinquième étage d'une très vieille maison devenue logis d'étudiants. Ce soir-là, pour fêter ses 21 ans, il avait réuni devant un vaste bol de punch deux ex-compagnons de classe à peu près de son âge, le peintre J. Bréard et le musicien Eusèbe Nédonchel. Les cigarettes avaient rendu nébuleux l'air de la chambre qu'assainissait toutefois un bon feu clair. La causerie, assez joyeuse d'abord, s'était aggravée aux approches de minuit. L'on agitait maintenant d'abstraites questions d'art, d'esthétique. Alexis les écoutait distraitement, laissant dire, étant persuadé que les artistes qui prennent le pli des théories ne se destinent qu'à vieillir éviter, en balbutiant pour tout bien des critiques au moins négligeables. Il dédaignait, comme chose inutile, même de le dire, attendu qu'il faut de la poussière sur les routes. Bref, qu'au fond, chacun ne fait que ce qu'il doit faire et ne trouve que ce qu'il a réellement cherché. Des bougies sur la cheminée éclairaient la pièce. On entrevoyait, contre le chevet du lit, une petite porte, sans doute condamnée depuis longtemps. Presque toutes les chambres d'hôtel ont de ces communications. Celle-ci venait de s'entrebâiller toute seule depuis quelques instants. La targette rouillée s'était détachée d'elle-même, pendant encore à une vis. On distinguait une faible lueur au joint des ais, et durant les accalmies de la discussion, de rauques soupirs, anhélants et pressés, jeint de l'eau au-delà de cette porte, parvenait au jeune causeur. « Ah, ça !» dit à la longue le peintre Bréard en baissant la voix. « Qu'est-ce qu'il y a là, de l'autre côté ?»« Ben, si nous allions voir !» murmura Médonchel. Tous deux s'étaient levés, mais Alexis, plus prompt, alla se poster contre le battant, s'y adossa les bras croisés d'un air de lyrisme calme, qui en imposa soudain à ses deux amis. « Oh, je le pressens et le devine, moi, ce qu'il y a derrière cette porte !» s'écria-t-il. « Certes, ce doit être tel vieux roi de quelque état perdu de l'Orient, un dépossédé, que les hasards de l'exil et la risée des gens du siècle auront conduit en ce taudis. Je songe qu'il est là, trônant sur un lit de camp, les yeux pleins de mélancolie et de fureur. Auprès de lui, j'ai quelques sacoches remplies de diamants et d'or, et pensif, étreignant un sceptre emporté de nuit, il se laisse indifféremment agoniser, de là ses profonds soupirs. Eh bien, pourquoi troubler sa suprême songerie ? Je pense que nous devons respecter sa solitude auguste et visionnaire. Laissez-moi m'endormir, fier d'un tel voisin. Mais c'est là de quoi rêver de beaux rêves. Bréard et Nédonchel avaient écouté bouche béante ce discours. Revenus de leur saisissement, ils se regardèrent, et rassurés par le placide sourire d'Alexis, « Oh non !» s'écria Mélenchon, « ma parole, j'ai cru, mais qu'il parlait sérieusement ?»« J'en suis encore effaré moi-même, » ajouta Jacques Bréard. « Bon, bon, mais à présent, soyons positifs, il faut aller voir. »« Tiens, mais entends-tu, oh, mais quelqu'un de très malade, à coup sûr, quelque pauvre diable !» « Homme de peu de foi !» répondit Alexis Dufresne, en livrant passage après un haussement d'épaule. « Ah ! Vous voulez vérifier, vous voulez voir, vous voulez de la réalité. Eh bien, allez, seulement retenez cela. Si vous franchissez ce seuil, vous n'aurez jamais de talent. Ce disant, il redescendit vers la cheminée, s'assit en son fauteuil et se mit à tisonner. Eusèbe, Nédonchel et Jacques Bréard, après un hochement de tête, ouvrirent la porte toute grande. Elle donnait sur le dernier coin de palier d'un étroit et misérable escalier dit de service. En face d'eux, 3 degrés aboutissaient à lui à demi béant d'un galetas, d'où provenaient la lueur et les plaintifs soupirs. Ayant frappé sans réponse, ils entrèrent. En se réduit mansardé d'une fétidité singulière, aux tuiles disjointes en leur plâtras, une veilleuse près de grésiller brillait, pauvre étoile, sur le rebord d'une sorte d'âtre sans feu ni cendre. Une chaise dépaillée, une ombre de table, une écuelle, sous un jour de souffrance, dit à tabatière, creusée dans la toiture, et dans un enfoncement au plus sombre du bouge, un grabat sur lequel un très vieux homme, en loques de mendiant, à la face hébétée et blanche, en laquelle transparaissait déjà la tête de mort, semblait râler, les yeux fixes, et traîna dans sa main droite pendante un crochet de chiffonnier. C'était l'atroce misère, la veille de la fosse commune. Rien à faire, l'heure de délivrance allait tinter. Horrifiés à ce spectacle, les deux jeunes gens reculèrent. Ayant tiré la porte sans une parole, ils rentrèrent chez Alexis, les yeux agrandis et se bouchant le nez. Un peu dédoré, ton monarque, murmura bientôt Jacques Bréard. Légèrement défraîchi, ton prince, appuya Nédonchel. Ils lui retracèrent ce qu'ils avaient vu. Les ayant écoutés en silence, Alexis secoua de l'ongle de son petit doigt la cendre de sa cigarette. « Oui, dit-il avec un soupir, voilà, c'est bien ce que je disais, vous n'aurez jamais de talent. »« Ah, mais tu es absurde à la fin, s'écria Bréard. Comment à 2 pas d'un mort, autant dire, tu fais le prophète en chambre, il s'agit bien de talent. » Et quel rapport, grommela Nédonchel. Non, séparons-nous, il est tard, dit Alexis. Je me charge de prévenir en bas demain matin. On but un dernier verre, puis après une banale poignée de main, les deux juvéniles artistes descendirent en chuchotant main colibet d'un ordre funèbre à l'adresse du poète et de son roi détrôné. Alexis écouta le heurt du portail. S'étant approché de la fenêtre, il entendit monter de la rue jusqu'à lui les rires un peu assombris toutefois de Bréard et de Nédonchel. Quand leurs pas et leurs voix se furent perdus au lointain, il revint s'enfermer d'un tour de clé. « Les troubles faits, les niais !» murmura le poète. « De quelle utilité pour ce moribond ces 2 farceurs ont-ils été ?» D'aucune. C'était bien la peine de se moquer de mon rêve pour aller s'effrayer d'une ombre et revenir du réel en se bouchant le nez. Voilà ce que c'est que de n'avoir aucun talent. Au dédain de cet imaginaire qui seul est réel pour tout artiste, sachant commander à la vie et s'y conformer, ils ont préféré s'en remettre à leur sens en se figurant qu'on peut voir ce qu'il y a. Enfin, puisqu'ils m'ont créé un devoir, allons. Se disant, il remplit un verre de punch en manière de cordial pour l'offrir, s'il en est temps encore, à son mystérieux voisin. Puis, ouvrant la petite porte, il entra dans le taudion. Sans hésiter, il s'approcha du malheureux et, se penchant avec un accent d'intérêt et de bonté, « Eh bien, sire, dit-il, voyons, voyons, ça ne va donc pas ?» À cette parole, le vieux pauvre tressaillit comme d'un frisson mortel. Mais à la stupeur d'Alexis, il trouva la force de se soulever, de s'accouder, de regarder son visiteur en silence, avec une froide solennité. Le poète lui tendit le verre qu'il repoussa de son doigt. « Oh, c'est vous, jeune homme !» articula d'une voix très basse le vieillard à demi expirant et entrecoupant ses paroles. « Oui, je vous ai entendu, là, je reconnais votre voix. Vous avez parlé d'un roi, d'un homme d'exil. Moi aussi, je suis un songeur. J'ai passé ma vie en rêve. Vous m'avez fait du bien tout à l'heure. Vous m'avez fourni le dernier, les rêves. C'est si beau. Mais en errant par les rues toutes les nuits dans une capitale, on trouve parfois de quoi presque les réaliser. L'habitude seule fait qu'on dédaigne cela, et pourtant... Si l'on est sobre, attentif, bon placeur de trouvailles, on devient riche avec les années. Regardez !» Et d'un pénible effort, du bout de son crochet tranchant, qui sembla rayonner comme un spectre entre ses phalanges décharnées, il fendit la toile de son grabat. Des billets en liasses pressées, des pierreries, des rouleaux d'or apparurent. À leur vue, il eut au fond des yeux comme la brusque flamme d'une lampe qui va s'éteindre. « Ah, que de fois au petit matin, rentrant ici, que de fois, en touchant, en palpant ce trésor sur cette lamentable paillasse, j'ai vécu des minutes merveilleuses. Pouvant incorporer mes rêves, je les possédais comme réels. » La mort oppressait l'effrayant pauvre. Il parut se hâter. Est-ce que vous en êtes digne? Je vous en fais mon héritier. Seulement, ne voyez plus vos deux amis. Ils s'appellent du temps perdu. Maintenant, au revoir. Il y en a près d'un demi-million. Quand vous m'aurez fermé les yeux, prenez cela, mon fils, et... Continuez mes rêves, moi, je m'éveille. » Un tressau le secoua, son corps se raidit, il retomba rigide. Aujourd'hui, le poète Alexis Dufresne, n'ayant su quintupler en quelques mois son héritage en opérations financières des plus solides, habite dans l'Inde, en plein Népal, un château-palais, si au centre d'une propriété des mille et une nuits. Oublieux même de ses deux amis, il y mène une existence de Raja. Bréhard et Eusem et Donchel sont toujours à Paris. Tous deux, en nobles esthéticiens, s'attardent chaque soir au fond de ces tavernes hantées de nos jeunes écrivains futurs, auquel il s'efforce, à coup de théorie, de démontrer qu'il faut toujours voir les choses telles qu'elles sont.